Bonsoir à toutes et à tous, du grain à moudre, c'est aussi tout l'été, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Fab Lab, contraction de l'anglais Fabrication Laboratory, atelier partagé de fabrication numérique. Voilà pour la définition la plus générique de ces espaces qui ont poussé comme des champignons ces dernières années, où on en dénombre entre 300 et 600 en France et dont on dit qu'ils sont porteurs d'une véritable révolution économique mais aussi politique et écologique. Pourquoi cette fourchette approximative de 300 à 600 ? Eh bien parce qu'il est très difficile en réalité de donner véritablement une définition satisfaisante de ce que d'autres appellent hackerspace, makerspace ou peut-être même biolab. Il y a tout de même un point commun. Tous proposent à leur façon de repenser la production, que ce soit de biens matériels, des aliments, de l'énergie ou de la ville. Il s'agit en somme de réaliser cette évolution, cette révolution de la relocalisation imposée par les défis environnementaux et auxquels il semble évident que le capitalisme tel qu'il s'est développé est incapable de répondre. C'est en tout cas le constat qu'ont fait 18 villes réunies dans le réseau international Fab City qui tient campus à Paris dans le parc de la Villette jusqu'au 22 juillet. Cela fait suite au sommet qui s'est tenu du 11 au 13 et qui visait à lancer des lieux d'expérimentation dans la capitale. Mais alors, quelle société se fabrique dans les Fab Labs ? C'est la question du grain à moudre d'été que nous allons poser ce soir et que vous pouvez écouter sur France Culture et quand vous le désirez, sur franceculture.fr. Trois invités pour répondre à cette question. Cécile Pélissier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la chef de cabinet de Jean-Louis Missika, l'adjoint à la mairie de Paris en charge de l'urbanisme, l'architecture, du Grand Paris, du développement économique et de l'attractivité, beaucoup de choses. Et vous, vous êtes plus particulièrement en charge justement de ces questions de la fabrication à Paris. Isabelle Berryby-Hoffmann, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, chercheuse au CNRS, vous dépendez du laboratoire LISE qui est au CNAM, le Conservatoire National des Arts et Métiers. Vous avez co-signé très récemment, c'était au Seuil, c'est publié cette année avec Michel Lallemand et Marie-Christine Bureau, une enquête internationale sur les Fab Labs, Makers, enquête sur les laboratoires du changement social. Et enfin, il fallait quelqu'un qui a un petit peu les mains dans le cambouis, un Makers lui-même, quelqu'un qui dirige et qui saura nous expliquer un petit peu comment fonctionne de l'intérieur ces Fab Labs. Antonin Fournier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes donc Fab Manager, puisque alors il va y avoir beaucoup d'anglicisme, hein, je le dis pour nos auditeurs, qui sont parfois un petit peu allergiques à tout ça, mais quand on parle numérique, malheureusement, on est souvent dans les anglicismes. Et puis on va voir qu'en plus, il est très très difficile de les traduire en français. Donc en tout cas, vous êtes Fab Manager au Simplon Lab à Paris, c'est dans le 20e arrondissement. Et vous êtes lauréat d'un appel à projet qui était lancé récemment, qui s'appelle Paris Fabrique et dont le prix a été remis lors du Fab City Summit la semaine dernière. Alors on va pas y couper hein, malheureusement, il va falloir se lancer dans un petit exercice de définition. C'est à qui est-ce qui va se faire, Cécile Pélissier, peut-être vous Isabelle Berryby-Hoffmann, puisque vous y avez consacré tout le début de votre ouvrage en définitive. Comment définir ces Fab Labs?
Vous avez commencé par le faire, il s'agit d'ateliers communaux de fabrication ouverts et collaboratifs. André Gortz, le philosophe, en parle dès 2007 dans Ecologica. C'est une forme qui a été pensée auparavant, avant l'arrivée des Fab Labs. Mais s'il faut définir le Fab Lab, il faut remonter, faire un tout petit point d'histoire. Les premiers Fab Labs naissent en fait aux États-Unis, sur la côte Est, au MIT plus exactement. C'est un physicien quantique.
Le Massachusetts Institute of Technology.
Exactement. Exactement. C'est un physicien quantique, Bakhtiar Mikak, qui trouve le terme un jour. Et à l'origine, les Fab Labs, il y en avait 6 à l'époque, en 2002. 3 aux États-Unis et 3 au Costa Rica. À l'origine, ça fait partie d'un programme de démocratisation de la technique du MIT. Il s'agit d'ouvrir la technique à l'Afrique de l'Ouest, à l'Afrique en général et à l'Amérique latine. Donc les projets sont développés, des Fab Labs au Ghana, en Afrique de l'Ouest, mais également, et c'est ça qui va se passer en fait aux États-Unis, dans les inner cities bostoniennes, c'est-à-dire les centres-villes pauvres et noirs de Boston. Et c'est là que le mouvement va commencer, avec quelqu'un qui s'appelle Robert King et qui fait du community organizing dans le centre-ville bostonien.
Alors Cécile Pélissier, on entend avec cette courte histoire que vient de nous rappeler Isabelle Berryby-Hoffmann qu'il y a un lien direct d'abord avec les universités, avec la recherche, le savoir, mais aussi avec la question urbaine, la question du développement urbain de ces Fab Labs.
Oui, tout à fait. Ce sont des lieux qui se sont insérés dans les villes et notamment dans les villes denses comme Paris, dans les ateliers, dans les garages, enfin dans tous les espaces qui restaient à disposition et dans lesquels on pouvait expérimenter, fabriquer, notamment grâce à des machines à commande numérique qui sont plus petites, qui sont moins bruyantes et qui permettent de produire des prototypes ou des petites séries qu'on ne pouvait pas du tout imaginer produire en ville, notamment dans des villes denses, il y a quelques années. Encore.
Les fameuses imprimantes 3D, évidemment, dont il sera probablement beaucoup question au cours de cette émission. Mais pour finir le tour de table, Antonin Fournier, je ne vous demanderai pas votre définition à vous, mais peut-être plutôt qu'est-ce qu'on y trouve, qu'est-ce qu'on y fabrique. Enfin, vous pouvez vous lancer aussi dans un exercice de définition si vous le voulez, mais voilà, qu'est-ce qu'on y trouve, qu'est-ce qu'on y fabrique dans ces Fab Labs ?
Alors, dans ces lieux, on trouve des machines à commande digitale, des outils. On trouve aussi des outils plus classiques, des machines à coudre, de bonnes vieilles scies à main. Ça fonctionne aussi. On trouve surtout des communautés de personnes qui viennent y travailler ensemble, qui viennent apprendre les uns des autres et qui viennent y développer des projets qui sont des projets entrepreneuriaux, mais aussi des projets associatifs ou des projets urbains. Ça existe de plus en plus, des lieux qui sont dédiés à des activités ouvertes sur la ville.
Alors qu'est-ce que ça peut donner concrètement ? Parce qu'on connaît des réalisations assez spectaculaires. On a beaucoup parlé, par exemple, de cette prothèse de main articulée pour quelques centaines d'euros qui a permis à une personne amputée du bras de pouvoir développer ce projet. Elle n'a pu le faire que grâce à un Fab Lab. Mais il y a, j'imagine, d'autres fonctions qui ne sont pas simplement aller personnaliser un mug en bas de chez soi.
Il y a énormément de fonctions et en fait beaucoup aussi de domaines de fabrication et de domaines sociétaux auxquels peuvent s'adresser les Fab Labs. Ça dépend beaucoup des personnes qui portent ces lieux, de leurs endroits d'implantation, des personnes qui les fréquentent. Et c'est ce qui fait la richesse de ce modèle-là aussi, c'est sa diversité. On a par exemple à Bagnolet un lieu qui s'appelle Yapluka, un lieu qui s'appelle Hyper, il me semble, qui est porté par un collectif qui s'appelle Yapluka, qui est un collectif d'urbanistes et d'architectes qui travaille sur le lien que peut faire un Fab Lab avec les habitants d'un quartier en permettant à des personnes de créer du mobilier urbain dans le Fab Lab pour ensuite le porter à l'extérieur. Ça, c'est un exemple. On peut aussi travailler sur du design textile si on est proche, comme nous, par exemple, d'organismes du type Emmaüs et qu'on a la possibilité de récupérer des tissus usagés pour pouvoir leur redonner vie.
Isabelle Berébi-Hoffmann.
Oui, ce qu'on a essayé de comprendre, nous, sur les 7 ans qu'on dirait notre enquête, c'est qu'en fait, ces lieux sont à la fois très locaux, très insérés dans le tissu urbain, mais ce qui fait l'originalité des Fab Labs par rapport à d'autres recycleries, etc., c'est qu'ils sont en réseau mondial immédiatement grâce au numérique, c'est-à-dire qu'il y a des modèles. On partage, normalement, dans la définition des Fab Labs, on est obligé de documenter en libre ce qu'on y trouve, les prototypes qu'on y trouve. Donc un Fab Lab, c'est entièrement local, ce sont des communautés d'apprentissage, mais il y a aussi une philosophie, des formes organisationnelles particulières, et puis il y a un accès à un réseau mondial de modèles, en fait, de modèles en libre, qui vont depuis, en utilisant l'imprimante 3D, une fraiseuse numérique et une découpeuse laser, il y a des maisons en libre aujourd'hui, en bois de 100 mètres carrés qu'on peut construire. Il y a du tissu, du textile, Datapolette par exemple fait ça à Paris. Il y a des formes de l'auto-formation, de la recyclerie, du circuit court, de l'économie circulaire. Donc tous les lieux sont très différents. Nous, on a étudié 30 en France. Il y a beaucoup de différences, mais néanmoins, ils sont censés être à la fois locaux et globaux en même temps.
Il y a quand même un point commun, ce sont les objectifs qui sont poursuivis, je le disais en introduction de cette émission, il y a un objectif de relocalisation en quelque sorte, de promouvoir le circuit court. Cécile Pellissier, c'est aussi une certaine façon de concevoir, j'allais dire la ville de demain, c'est peut-être un peu bateau de le dire comme ça, mais en tout cas c'est le projet qui est porté par les Fab City, c'est d'imaginer une ville où on repense la production d'énergie, où on repense la production d'objets, où on repense évidemment même la question de l'alimentation. Alors c'est vrai qu'on pourrait penser que dans la ville, ça n'a pas vraiment sa place, mais avec les Fab Labs, c'est le cas.
C'est-à-dire que c'est dans les Fab Labs, avec les Fab Labs et du coup en dehors des Fab Labs aussi. Les Fab Labs peuvent être le point de départ de cette grande révolution, mais je pense que ça fait partie aussi des objectifs de la Fab City, de se dire qu'on sort du Fab Lab et que finalement on envahit tout l'espace, et notamment tout l'espace public, et c'est là que les villes peuvent être partie prenante, justement facilitant cette installation dans l'espace public, parce qu'effectivement dans la la ville de demain, donc plus productive, plus durable, plus circulaire telle qu'on l'imagine. On a besoin de ces acteurs et on a besoin de ces acteurs dans tous les champs de la production, donc de l'agriculture urbaine, de la production d'énergie locale à partir d'énergie de récupération par exemple, de la production de biens manufacturés, là on vient un peu d'en parler, et ça concerne à peu près tous les champs de tout ce qui peut être fabriqué et produit localement. Et ça change totalement le paradigme dans lequel on était jusqu'à présent, à savoir il y a une urgence écologique qui est indéniable. Et pour nous, l'idée, c'est de trouver les espaces dans la ville pour que cette production puisse se faire et qu'on arrête d'importer des biens qui sont fabriqués à des milliers de kilomètres et qui ont un bilan carbone qui est désastreux.
Mais Cécile Pélissier, je rappelle que vous êtes la chef de cabinet de Jean-Louis Missika, donc qui est adjoint à la maire de Paris, Anne Hidalgo. Et comment est-ce que ça s'inscrit dans une politique urbaine, ce soutien aux Fab Labs ? Parce qu'on pourrait dire, est-ce qu'il n'y a pas une certaine forme de gentrification, par exemple, qui va se créer autour de ces espaces ? On pourrait le croire. Il y en a d'autres qui disent, maintenant, ça réintroduit peut-être la fabrication au cœur de la ville alors qu'elle avait disparu. Comment est-ce que vous concevez ces espaces ? Est-ce que c'est vraiment des espaces à partir desquels vous pensez aussi des quartiers, une certaine forme d'urbanisme ou d'urbanisation ?
Alors nous, on les conçoit pas, on les regarde se développer, on accompagne leur développement, on essaye de leur trouver de la place parce que la principale problématique dans une ville comme Paris, c'est vraiment le foncier. Donc on a une action qui est assez forte pour dégager du mètre carré. C'est une action en faveur de l'immobilier productif. C'est vraiment de se dire on a un patrimoine immobilier industriel et artisanal qui est géré par un certain nombre de bailleurs et avec eux, on travaille sur la libération de ces espaces et sur le fléchage vers ces artisans d'art, ces makers, ces designers urbanistes qui peuvent produire en ville. Évidemment pas dans de très grandes séries, mais au moins prototypées, au moins en petites séries, fabriquées à la demande et ensuite à nous d'articuler à l'échelle de la métropole une production en plus grande série avec des mobilités et une logistique qui reste propre pour qu'on reste en phase avec nos objectifs.
Antonin Fournier, quel interlocuteur vous trouvez-vous dans la ville ? Il faut signaler que par exemple aux États-Unis, les Fab Labs se méfient énormément des pouvoirs publics, ils vont plutôt se tourner vers le privé pour monter leurs projets. En France, c'est un petit peu différent. Alors, on voit que c'est quand même le reflet probablement de cultures différentes. Mais vous, par exemple, vous avez reçu, je l'ai dit, vous avez gagné l'appel à projet Paris Fabrique. Vous êtes en lien probablement avec la municipalité dans laquelle vous êtes installé, donc le 20e arrondissement. Quel est votre rapport, vous ? Qu'est-ce que vous attendez de la ville et qu'est-ce que ça fait au projet même des Fab Labs, qui est un projet, j'allais presque dire libertaire, en tout cas, qui a un peu cette dimension politique-là.
Alors c'est vrai que les Fab Labs en France ont pris une toute autre couleur qu'aux États-Unis. Le modèle s'est vraiment adapté à son environnement, à son contexte. Il s'est aussi beaucoup teinté de la question d'éducation populaire en France, qui est une question qui est aussi portée par les institutions publiques historiquement, ce qui fait une spécificité et ce qui fait aussi que les Fab Labs ont davantage tendance à s'orienter vers des soutiens publics pour leur existence. Il y a aussi une méfiance qui existe quant au modèle 100% public, ou en tout cas d'un financement uniquement public. Il y a plusieurs Fab Labs qui ont dû arrêter leur fonctionnement et leur activité parce qu'ils dépendaient de fonctionnements institutionnels qui ont décidé, suite à des élections, de retirer leur soutien. Et ça a cessé l'activité des Fab Labs. Donc, quand on parle de nos modèles économiques, on essaye toujours de s'orienter vers des formats hybrides qui pèsent pas trop sur les institutions publiques, qui fassent aussi en retour que nous, on ne dépende pas uniquement des institutions publiques et qui nous donnent une liberté et une marge de manœuvre aussi, une créativité dans la façon dont on déploie nos modèles. Ceci dit, pour nous, c'est essentiel de travailler avec la ville parce que on conçoit notre activité comme une activité éducative, comme une activité sociale, et on voit pas du tout comment est-ce qu'on pourrait faire ça sans la ville, sans parler avec la ville, sans être soutenu par la ville. Puisque pour rentrer dans des détails très concrets, quand on doit faire rentrer de l'argent pour un Fab Lab et qu'on déploie des activités qui sont des activités commerciales privées, ça laisse très peu de temps aux équipes pour s'occuper de toutes les questions justement d'ouverture sur un quartier, d'intégration des publics, d'éducation, d'accès, etc., etc. On va orienter le lieu vers d'autres types de services, ce qui existe aussi.
Isabelle Berelli-Hoffmann, on a dans ces deux interventions qu'on vient d'entendre un peu toute la complexité à la fois de définir et de comprendre un petit peu ce que sont ces espaces, ces lieux, puisque on parle à la fois d'un modèle économique, mais enfin à côté aussi d'un engagement dans des activités sociales. Il y a la question du rapport au public et en même temps de vouloir s'affranchir d'une forme de dépendance à la fois des pouvoirs publics et évidemment, j'imagine aussi des intérêts privés. Ça doit être la même chose aux États-Unis. Vous connaissez aussi la situation là-bas. Et donc ça montre bien qu'on a là toute la complexité du modèle et la compréhension, la possibilité de comprendre de quoi il s'agit exactement.
Oui, vous avez raison, mais c'est pas étonnant. C'est toujours comme ça avec le numérique depuis quelques années. Regardez l'économie de plateforme, l'économie de partage, Uber, Airbnb, on commence seulement à comprendre. Il y a les algorithmes, etc. Et pourquoi ? C'est pour ça que nous, sociologues, nous nous sommes intéressés à ces lieux-là. C'est parce que justement, on pense qu'il y a pas que de l'innovation technique. On parle beaucoup de machines, on parle d'Internet. Il faut rappeler qu'Internet, c'est 95, l'économie du partage 2004, Uber et Airbnb 2008-2009. On est aujourd'hui, et les Fab Labs, il se développe très fortement en Europe à partir de 2013. Donc on est dans une phase où on apprend ensemble, on construit ensemble l'ensemble des partenaires. Nous, on est du côté de la recherche, mais les partenaires urbains et les Fab Labs eux-mêmes. Donc en fait, juste un point là-dessus quand même pour répondre à votre question, c'est que pour nous, sociologues, on pense qu'il émerge là des formes organisationnelles innovantes qui ne reprennent pas les dichotomies classiques ou les catégories classiques et les séparations entre travail, loisirs, activité, emploi qu'on avait dans la société fordiste. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, on est obligé de revoir les frontières, ce ne sont pas des lieux hybrides, ce ne sont pas des lieux qui sont à la fois associatifs, publics, marchands, commerciaux, ce sont des lieux qui réinventent une articulation autour de l'activité du marchand, du commercial, du gratuit et de l'intervention publique. Et le but, c'est quand même l'autonomie, l'autarcie ou l'autoproduction. Donc il y a une philosophie derrière ces lieux qui est commune également, sur laquelle on va peut-être revenir. Et il y a un mouvement mondial, et donc je pense qu'on a un travail tous à faire également pour au niveau de nos catégories de pensée du travail et de la production, pour arriver à comprendre ces lieux.
Oui, Barcelone, c'est là qu'est né ce mouvement, ce réseau des Fab City. On va y revenir dans quelques instants, mais Antonin Fournier, je vous voyais acquiescer à ce que disait à l'instant Isabelle Berelli-Hoffmann. Ça m'amène à vous demander, vous, comment est-ce que vous vous considérez, puisqu'on est dans la question de la dénomination, est-ce que vous estimez être un makers, un hackers, puisqu'il y a tous ces termes un petit peu qui circulent, qu'on a un peu de mal parfois à définir. Est-ce que vous vous définissez d'une certaine façon?
Non, je me définis pas ni sous le terme de maker ou de hacker. Voilà, je m'occupe avec plusieurs autres personnes de ce lieu qui est un Fab Lab, mais qui pourrait s'appeler autrement. L'essentiel pour nous, c'est de travailler en connexion avec d'autres lieux, avec plein d'acteurs différents. C'est ce que vous disiez, c'est que c'est des lieux où se rencontrent des acteurs publics, des acteurs privés, des acteurs associatifs, qui sont des lieux plus qu'hybrides, c'est ce que je comprenais dans ce que vous racontiez, et c'est ça qui est intéressant. Et c'est justement des lieux dans lesquels on respire un petit peu parce qu'on sort de catégorisation, aussi d'opposition, qui minait un petit peu le champ des activités créatives et politiques, et on est dans des lieux de rencontre. On n'est pas obligé justement d'arriver avec une étiquette, et ça c'est très important, et pour nous, et pour les personnes qui fréquentent ces lieux.
Alors pas d'étiquette, mais malgré tout, Cécile Pellissier, quand on représente une institution publique, c'est bien d'avoir un petit peu des étiquettes. Vous avez donc créé celle, en tout cas vous participez à celle de Fab City, qui est, je le répète, cette initiative de 18 villes qui se sont engagées dans la promotion et le développement d'un modèle urbain qui soit basé sur la fabrication et la production locale, circulaire et numérique. Ce sont les thèmes clés qui sont employés. Et donc il y a ce Fab City Summit qui a eu lieu à Paris la semaine dernière. On peut se rendre encore au parc de la Villette, au campus de ce Fab City Summit. Comment est-ce que vous accompagnez justement, comment est-ce que vous pouvez repenser l'action publique pour accompagner justement ces initiatives qui finalement refusent toute forme d'étiquette et sont un petit peu à part? Ça doit pas être évident.
Je ne sais pas si elles refusent toute forme d'étiquette. En tout cas, nous, on ne tient pas particulièrement à leur en donner non plus. On les accompagne sur différents plans. Donc, ce que je disais tout à l'heure sur l'immobilier, on les accompagne dans la partie formation parce qu'on considère que le monde va beaucoup changer dans les années qui viennent et qu'il y a de nouveaux métiers qui vont émerger, notamment qui vont naître de la transition écologique, et que typiquement, enfin tout ce qui se passe dans les Fab Labs et dans tout cet écosystème, on a besoin de s'en nourrir et de s'en inspirer parce que c'est là que.
Et par exemple là, dans le cadre de ce Paris Fabrique, de ce appel à projet Paris Fabrique ou plus largement dans les activités, dans les Fab Labs que vous pouvez visiter ou accompagner, est-ce qu'il y a des éléments, des initiatives qui vous paraissent particulièrement prometteuses et qui sont soutenues aujourd'hui et qui indiquent aussi une évolution possible du modèle d'une ville comme Paris?
Oui, évidemment, nous, ce qu'on essaie de soutenir, c'est donc la partie formation et aussi ce qu'on veut faire, c'est mettre en avant ces initiatives parce que notre logique, ce n'est pas de subventionner et de financer les Fab Labs. On les accompagne en les aidant à trouver des lieux, à se développer. On les accompagne aussi en leur donnant de la visibilité et notamment en lançant des grands appels à projets du type réinventer Paris, réinventer la Seine ou des appels à projets liés au design urbain. On les associe à la co-construction, à la co-conception de la ville, du mobilier urbain. Donc, quand vous regardez dans tous les lauréats de ces grands appels à projets qui vont transformer la ville, vous avez quasiment systématiquement un Fab Lab qui est associé, que ça soit Volume, que ça soit Villette Makers, que ça soit ici Montreuil, qui se sont associés à des promoteurs immobiliers, c'est-à-dire à des acteurs avec lesquels ils ne travaillaient pas auparavant, et ce qui leur donne de la visibilité et ce qui donne aussi du sens au projet, parce que leur façon de concevoir et d'appréhender la ville et l'espace public est tout à fait différente. Et c'est ce qu'on fait également avec un certain nombre de collectifs type 14 ou le collectif Bastille, dans le grand projet qu'on a lancé de réaménagement des 7 places parisiennes. Et ces acteurs du FER sont au centre de la conception de ces nouveaux espaces publics qu'on va partager avec les Parisiens.
Les acteurs du FER, FIRE, bien entendu, Isabelle Bérébi-Hoffmann, je vais vous redemander de refaire un petit peu d'histoire, parce que quand on commence ce livre, donc Makers, enquête sur les laboratoires du changement social que vous avez publié au Seuil avec Marie-Christine Bureau et Michel Lallemand. Le premier chapitre, on apprend que finalement tout ça, ça n'a rien de très nouveau. Au XVIIIe siècle, il y avait le mouvement des shakers, donc c'est pas les makers mais c'est les shakers, et qui déjà par le travail artisanal, la réhabilitation du travail artisanal, par le bricolage en quelque sorte, nous propose un modèle de société où l'autoconsommation, le partage sont au cœur du projet.
Oui, on a essayé de faire une généalogie parce que sinon on démarrait à 2005 et au magazine Make, et en fait ça correspond à des choses très fondamentales dans la façon, dans le rapport à la technique, le rapport à l'objet et à la production, puisque le mouvement lui-même Maker se réclame d'une réappropriation des objets et de la technique, de la main et du fer, et de changer la société par le fer. Comme on l'a dit, il s'agit de faire et ensuite changer le monde. Donc on est remonté effectivement aux Shakers, une secte protestante qui était menée par une jeune ouvrière, Anne Lee, en Angleterre, dans les années 1770. Et ils sont réprimés, ils partent sur la côte Est, ils arrivent donc aux États-Unis et vont fonder une communauté qui va atteindre au milieu du 19e 20 000 personnes. Ils ont inventé le fauteuil à bascule, la pince à linge, la scie circulaire, et l'idée était effectivement l'autarcie totale avec la créativité et des objets qui étaient liés aux besoins de l'humain et non pas l'inverse. Ensuite, il y a eu le mouvement Arts and Crafts sur la côte Est, avec William Morris. Enfin, et là aussi, il y a une imprégnation culturelle. Il y avait aussi à Concorde, pas loin de Boston, les philosophes Emerson et Thoreau. Thoreau qui est parti dans les bois construire sa propre maison, vivant en autarcie pendant 2 ans. Walden, ou la vie dans les bois. Donc il y a toute une culture de ce que les Américains aux États-Unis appellent la self-reliance. Qu'on traduit en France par confiance en soi, mais qui littéralement signifie ne compter que sur soi, et qui est une forme d'autonomie très exigeante de rapport à l'objet. Donc le do-it-yourself est né de là, mais on a aussi en France des traditions de do-it-yourself. On a repéré 5 périodes historiques où il y avait du do-it-yourself, c'est-à-dire du faire par soi-même, construire par soi-même, qui sont liées à des crises, qui sont liées à des moments de résistance face à la standardisation du travail et à une société qui enlève le sens, justement, des mondes du travail.
Oui, Antonin Fournier.
Alors, je suis tout à fait d'accord sur la question de la réappropriation des outils et du rapport à la technique. Peut-être un petit peu moins sur cette notion d'autarcie ou d'autonomie, puisque c'est justement des lieux où on fait avec les autres et on est passé, alors vive les anglicismes encore une fois, on est passé du DIY,
donc do it yourself,
du do it yourself au DIY, donc do it with others. Donc je suis pas un grand fan de tous ces anglicismes qui traînent non plus, parce que je pense que on a des traductions françaises qui existent tout à fait aussi, ça nous permet de se réapproprier ce qui se passe, mais c'est surtout des lieux en fait où on va faire avec les autres, où on va rencontrer des nouvelles personnes, apprendre de ces personnes-là. Et je pense que la Fab City, c'est aussi ça. Il y a cette notion de ville autonome, et faut entendre autonomie comme autonomie vis-à-vis des circuits de distribution, production, distribution, consommation classique du capitalisme.
Et peut-être aussi vis-à-vis des États-nations, face aussi comment des villes-mondes, à un moment donné, arrivent aussi à imposer un certain nombre de normes vis-à-vis des États-nations avec lesquelles elles ne sont pas forcément d'accord, alors qu'elles ont quand même leur mot à dire, parce que la population se trouve dans les villes-mondes.
Et être force de proposition aussi. Sans attendre que les États-nations prennent acte et fait sur des questions d'écologie qui deviennent de plus en plus urgentes. Donc autonomie dans le sens pouvoir, c'est-à-dire pouvoir de faire, ne pas être restreint par autrui, mais pas autonomie dans le sens autarcie. Voilà.
France Culture, du grain à moudre d'été, Raphaël Bourgois.
Quelle société se fabrique dans les Fab Labs? C'est la question qu'on pose ce soir dans le grain à moudre d'été avec nos trois invités. Cécile Pélissier, qui est chef de cabinet de Jean-Louis Misséka, adjoint à la mairie de Paris et qui est en charge spécifiquement de la question de la fabrication à Paris. Isabelle Bérébi-Hoffmann, qui est sociologue, chercheuse au CNRS et co-auteur de Makers, enquête sur les laboratoires du changement social. C'était publié au Seuil cette année. Et enfin, Antonin Fournier, qui est Fab Manager au Simplon Lab à Paris, dans le 20e arrondissement. Alors peut-être qu'il faut aller encore un petit peu plus loin, puisqu'on a commencé à aborder la question presque politique du rôle des Fab Labs. En posant cette question, je le disais un peu sur le ton de l'humour tout à l'heure, Isabelle Bérébi-Hoffmann, en interrogeant Antonin Fournier, est-ce que vous considérez comme un makers, comme un hackers? Il faut revenir quand même sur ces termes qui sont porteurs de sens, surtout qu'en France, on a tendance à assez mal comprendre ce terme de hacker, qu'on traduit assez improprement par pirate, en général, pirate informatique, alors qu'il s'agit bien d'autre chose et qu'il s'agit véritablement d'une proposition politique, ou en tout cas d'une proposition de transformation, de changement social.
Oui, alors maker, c'est très difficile à traduire puisque c'est faiseur, quelqu'un qui fabrique, etc. La définition politique que vous soulignez, c'est que c'est en fait quelqu'un qui détourne des objets, qui a une philosophie de détournement. Donc bien sûr, on va la retrouver dans la récupération. Il s'agit de prendre un objet, de pouvoir y avoir accès, de le bricoler, de le bidouiller et de pouvoir le détourner. Un programme informatique pour les hackers, mais chez les hackers, on distingue les white hats, c'est-à-dire les gentils hackers, des crackers, les pirates, et on a retenu seulement la philosophie du pirate. Et donc c'est d'abord une proposition politique de détourner, hacker, ça veut dire détourner un système, un objet, voire la société tout entière. Donc il y a effectivement une philosophie de pouvoir, de puissance de l'individu qui peut s'approprier le monde technique, politique, social ou institutionnel. Et la proposition est effectivement sur une forme de réappropriation des dispositifs au sens d'Agamben qui réduisent ou qui contraignent l'humain aujourd'hui.
Antonin Fournier, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Isabelle Bérébi-Hoffmann? Est-ce que vous avez le sentiment, vous, que c'est une dimension fondamentale de ce à quoi vous participez, c'est-à-dire porter également un certain nombre de valeurs?
Personnellement, oui. Après, c'est compliqué quand on est au sein d'un Fab Lab de décider que tout le monde porte ces idées-là aussi. Et c'est aussi l'intérêt de ces dispositifs, c'est qu'ils sont vecteurs de ces enjeux. Et en même temps, ils contraignent pas les personnes qui les fréquentent à les adopter, à les porter haut et fort, à en faire des revendications constantes. C'est-à-dire qu'on a des personnes, nous, qui viennent parce qu'ils ont des enjeux très simples, très quotidiens de réparation de leur objet usuel. Et en fait, on leur demande pas de signer un engagement politique en venant dans le lieu, mais on leur propose une activité qui est directe, qui est efficace, qui s'adresse aussi à des enjeux économiques, voilà, du quotidien, et qui recoupe ce que nous on porte après, et ce dont on discute aujourd'hui, ces questions d'autonomie politique.
Cécile Pélissier.
Oui, je suis tout à fait d'accord. En tout cas, c'est ce qui est intéressant dans cette approche-là, c'est qu'elle n'est pas dogmatique et qu'effectivement, ça permet de rendre ces lieux accessibles à tous, et que ça soit de l'habitant du quartier qui, parce qu'il lutte contre l'obsolescence programmée, va venir faire réparer une pièce d'une machine, à des gens qui sont un peu plus pointus ou qui vont répondre à des commandes et sont là vraiment pour des raisons professionnelles.
Mais j'imagine, Antonin Fournier, que ça ne va pas sans un certain nombre de tensions, parfois au sein des Fab Labs, entre ces deux types de populations, puisque, je le rappelle, ce sont des lieux où il y a des machines qui, j'imagine, valent un certain prix, dont il faut savoir se servir, et donc il y a d'un côté la volonté de pouvoir accueillir tout le monde, de pouvoir accompagner, puis de l'autre, manifestement, la nécessité aussi d'organiser un petit peu les choses, de hiérarchiser un petit peu les pratiques au sein de ces Fab Labs, et je dis ça pas tout à fait au hasard, hein, parce que c'est quand même assez présent dans votre livre, Isabelle Berry-Biofan, cette question justement de l'organisation au sein même des Fab Labs.
Ça, c'est tout notre travail à nous, aux femmes managers, femmes manageuses au quotidien, c'est d'organiser ces lieux pour qu'ils puissent accueillir tout le monde et que tout le monde puisse y travailler. Après, il y a des Fab Labs qui portent plus ou moins d'importance justement à la diversité des publics qui les fréquentent. Il y a même des lieux qui disent clairement que ça les intéresse que très moyennement. Mais il y a quand même dans la charte des Fab Labs l'idée de pouvoir accueillir au moins une partie du temps tout type de public, ne serait-ce que pour des questions de créativité, d'ouverture, d'alimentation, des échanges. Nous, c'est vrai que c'est un gros enjeu pour nous de faire en sorte que des designers comme des gens du quartier qui appartiennent à des CSP peut-être moins élevés puissent venir fréquenter le lieu.
Catégorie socio-professionnelle,
puissent venir fréquenter le lieu au même titre, sans distinction. Et ça demande un gros travail en termes d'accueil, en termes de signalétique dans le lieu, la façon dont on pense son espace aussi pour pas qu'il soit truffé de symboles qui s'adressent à un type de la population. Pour le dire assez franchement, il y a des lieux dans lesquels on rentre et on sait qu'ils s'adressent à des architectes, à des designers, voilà. Et donc c'est important aussi d'avoir dans ces lieux des signes probants qui disent qui que tu sois, t'es bienvenu ici, tu peux venir travailler ici.
Isabelle Berry-Biofman, c'est quelque chose que vous avez constaté dans la trentaine de lieux en France que vous avez pu, dans lesquels vous avez pu enquêter. Également, il y a des Fab Labs en dehors de France que vous avez pu visiter. Il y a cette question évidemment de qui fréquente ces lieux, une population que vous avez essayé d'ailleurs de caractériser, mais aussi la question de l'organisation et du rapport entre, on va dire, presque les amateurs et les professionnels, quoi, entre ceux qui vraiment font leur vie au sein de ces Fab Labs et ceux qui viennent de manière sporadique, comme on l'a dit, pour réparer tel ou tel objet ou fabriquer tel ou tel autre.
Oui, on a cité tout à l'heure ici Montreuil, par exemple, qui arrive à avoir des populations très variées, donc des artisans qui fabriquent dans les ateliers, des jeunes start-up et des habitants qui viennent réparer leurs meubles dans le circuit recyclerie, Emmaüs, etc., avec des programmes. C'est pas facile. On a étudié effectivement les profils de qui vient. Alors partiellement, hein, c'est une enquête qualitative, on n'a absolument pas été exhaustif. On a étudié 250 profils et on retrouve à la fois ce qu'on croit, ce que vous avez cité, c'est-à-dire une forte majorité d'hommes, plutôt la trentaine, plutôt diplômés, mais aussi quand même des femmes. Dans notre échantillon, je crois que c'est entre 30 et 40%. Et c'est vrai, il y a des étudiants, mais on retrouve comme à Saint-Plon aussi des profils de gens qui sont passés par l'éducation populaire, par l'associatif. Donc il y a un vrai mélange en France avec des catégories socio-professionnelles défavorisées qui sont peu représentées. Mais c'est le cas aussi par exemple pour les jardins partagés. C'est le cas pour tous les lieux qui relèvent de ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie des communs. Par rapport au public, un jardin partagé, il est ouvert. Mais il n'est pas ouvert, finalement, en vrai, à tout le monde par rapport au jardin public. Tout le monde n'ose pas y en pousser la porte. Donc c'est tout l'enjeu de qui pousse la porte des Fab Labs. Et on avait d'ailleurs commencé le livre comme ça, avec Nicolas Huchet, qui a osé pousser la porte d'un Fab Lab pour se fabriquer une main artificielle.
Antonin Fournier.
C'est très compliqué de pousser la porte d'un Fab Lab. Moi-même, les premières approches ont été un peu complexes. Je me sentais pas forcément à ma place dans ce lieu. Et pourtant, je suis plus proche du modèle sociologique dont vous parliez, d'hommes blancs diplômés, que d'autres personnes. Donc moi, qui suis censé me sentir plus à l'aise sociologiquement, j'ai du mal à pousser la porte et à rentrer dans ce genre de lieu. Effectivement, c'est très compliqué pour d'autres personnes qui sont éloignées de ces mondes-là et aussi qui ont du mal à comprendre ce qui s'y passe. Parce que c'est vrai que, et l'anglais y est pas pour rien, souvent on parle des langues qui sont incompréhensibles de l'extérieur. Économie des communs, Fab City, c'est des termes, ça nous parle à nous parce que on travaille là-dedans, on étudie ces choses-là, mais de l'extérieur, c'est plus difficile. Et donc, il y a un vrai travail de médiation, de communication. Et c'est là où c'est super important pour nous de travailler avec la ville de Paris, avec les antennes. On travaille avec l'antenne de développement local aussi, qui est dans le 20e arrondissement, qui est au coin de notre rue. C'est super important pour nous de travailler avec ces différents organismes parce qu'ils nous aident justement à sortir de cette zone compréhensible que par nous-mêmes pour parler à d'autres personnes et pour travailler avec d'autres personnes.
Cécile Pellissier.
Oui, c'est vrai que quand on regarde un peu l'implantation des Fab Labs dans Paris, notamment, c'est vraiment beaucoup localisé 18, 19 et 20e. Et ce sont des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Et donc, c'est vrai que c'est des endroits qui sont très chargés, dans lesquels il y a beaucoup d'enjeux. Saint-Plon est installé rue Serpollet. Et pour nous, le fait d'avoir lancé Paris Fabrique notamment, ça doit permettre aussi à tous les gens qui n'osent pas, qui se posent la question, qui ne se sentent pas légitimes, de pouvoir franchir plus facilement les portes des Fab Labs. Parce qu'en étant formé à la fabrication numérique dans ces lieux-là, ça va permettre de déconstruire un certain nombre de fantasmes et de se dire que ces outils, finalement, appartiennent à tout le monde. Et dès lors qu'on a été formé, je pense que ça va aussi avoir un effet démultiplicateur sur ce mouvement et cette démarche de fabrication en ville.
Antonin Fournier, je ne vous ai même pas demandé quel était le projet grâce auquel vous aviez remporté cet appel de Paris Fabrique, puisque Cécile Pellissier vient de le dire. Qu'est-ce que vous présentiez comme projet ?
Alors, c'est un projet de formation en 6 mois pour permettre à des personnes de devenir animateurs de tiers-lieux numériques et de réemploi. Alors, on n'a pas dit Fab Manager, un peu en faisant exprès aussi.
Vous avez dit tiers-lieu.
Mais on a dit tiers-lieu. Alors, c'est pas parce qu'on parle français que ça devient compréhensible tout de suite, ou plus clair. C'est vrai que tiers-lieu, c'est une notion qui est assez vague. Alors, il me semble que l'auteur, c'est Ray Oldenburg qui théorise ça. Donc, c'est une notion, c'est pas la maison et c'est pas le lieu de travail, c'est tout ce qu'il y a entre. Donc, en fait, c'est un peu tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, on parle des tiers-lieux pour désigner des espaces dans lesquels on apprend et on fabrique ensemble autrement. Donc des Fab Labs, des Makerspace, des Hackerspace, ça permet aussi de sortir des catégories qui nous enferment, mais aussi des jardins partagés, des espaces d'agriculture urbaine. Et nous, la formation qu'on propose, c'est une formation qui permet à des personnes d'acquérir le socle technique, savoir dessiner à la main, puis sur un ordinateur, modéliser en 3D, souder, programmer, identifier des composants électroniques, et en même temps qui sachent accueillir et animer un lieu de ce type-là, avec une forte couleur, du coup, dédiée au réemploi et aux pratiques écologiques, parce qu'on pense qu'aujourd'hui, dans le cadre de la Fab City, ça a plus beaucoup de sens d'avoir des Fab Labs qui sont juste producteurs de déchets, mais qu'aujourd'hui, en s'inscrivant bien dans les circuits qui se déploient de la Fab City, on peut récupérer des matériaux, des excédents, et leur redonner vie, et s'en servir comme support pédagogique.
Isabelle Berrevi-Hoffmann, il y a quelque chose qui est frappant dans ce que vient de dire Antonin Fournier, c'est à quel point, donc vous l'avez dit aussi, le faire, la fabrication, la main est importante dans ce mouvement des makers. Or, pendant longtemps, on a pensé que le propre du numérique, c'était la dématérialisation. Or là, on a l'impression d'aller complètement à l'inverse, vers une forme de rematérialisation et de souci même premier de la matière. Ça vient d'être dit, la récupération, le recyclage, c'est fondamental pour ce mouvement des makers.
Oui, tout à fait, je vous suis. C'est Negroponte qui, en 95, avait annoncé que tout ce qui pouvait être dématérialisé serait dématérialisé dans son livre sur le digital. C'est le Media Lab et effectivement la musique, l'information, les livres, etc. Il y a eu ce mouvement de dématérialisation. Et aujourd'hui, on a les mêmes fantasmes, peurs, parfois, avec l'intelligence artificielle. Le mouvement Maker fait l'inverse. C'est-à-dire qu'il utilise la puissance d'Internet pour fabriquer des objets qui reviennent dans le monde. Donc, pour reprendre l'expression américaine, je m'excuse de l'anglais, c'était atoms to bits, des atomes, c'est-à-dire les choses matérielles aux bits, c'est-à-dire l'unité de l'informatique. Et là, c'est le mouvement inverse, des bits aux atomes, c'est-à-dire on refabrique. Et ça rencontre ce qu'on pense être une tendance sociale forte aujourd'hui dans les mondes du travail, effectivement. C'est-à-dire qu'on a cette critique qu'a fait David Graeber des bullshit jobs, des jobs...
L'anthropologue américain.
C'est-à-dire des gens qui ont des pertes de sens au travail. Donc on retrouve dans les Fab Labs, les Makerspaces, des ingénieurs diplômés, mais qui veulent retrouver le plaisir de fabriquer un prototype, de voir le résultat, etc. On trouve des artistes 10 ans. qui montent en puissance numérique. Donc il y a une alliance en fait, et je pense que c'est ça qu'il y a à comprendre dans ce mouvement maker au sens large, dont les Fab Labs font partie, mais qui ne sont pas les seuls lieux institutionnels qui font partie du mouvement. C'est ce lien entre artisanat, faire dans le monde réel et la puissance du numérique mis au service de la fabrication.
Oui, retrouver du plaisir, retrouver du sens, c'est dire aussi que dans ces lieux, faire, c'est dire. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, on a, par l'action, on a aussi un certain rapport à la parole et à l'intervention dans presque politique, dans l'espace public, Cécile Pellissier.
Oui, tout à fait. Et puis, pour compléter ce qui vient d'être dit, nous, on forme beaucoup de gens à Paris, on forme beaucoup de gens en France. Ensuite, on a un écosystème de l'innovation qui fonctionne plutôt bien. On a beaucoup accompagné cet écosystème en créant un certain nombre d'incubateurs à Paris et dans la métropole. Le système se porte bien, il est plus soutenu par la puissance publique, il a trouvé son modèle économique. Et pour nous, l'étape d'après, c'est de se dire, tous ces gens qui inventent et qui créent à Paris, il faut qu'on leur donne les moyens de fabriquer ici. C'est-à-dire que ça serait une forme d'échec que les personnes qui inventent des objets connectés les fassent tous fabriquer ailleurs. Donc maintenant, c'est à nous de leur donner moyen de rester ici et de produire et de transformer cette richesse en créant de l'emploi à Paris et dans le bassin parisien et dans les grandes villes de manière générale.
Antonin Fournier, sur ce rapport finalement entre la parole et la pratique.
Alors, la question de la parole politique, elle est intéressante. Tout à l'heure, on disait qu'on ne demandait pas aux personnes d'avoir une approche politisée pour accéder à ce type de lieu. Mais à contrario, je pense que c'est aussi intéressant que, en fait, les personnes se politisent au contact de ce type de lieu. C'est-à-dire que quand on commence à avoir une pratique du réemploi, on pousse la porte d'un Fab Lab parce que de l'extérieur, ça a l'air joli. Il y a plein de gens très sympas qui rentrent quotidiennement et puis on se demande ce que c'est. On rentre dedans et puis on se voit bien accueillir et proposer d'assister à des ateliers pour des choses concrètes de réparation d'objets du quotidien qu'on a. Au cours de ces ateliers-là, on rencontre d'autres personnes qui ont leurs opinions, qui ont leurs couleurs politiques, mais qui viennent tous travailler un peu contre l'obsolescence programmée. On parle de l'obsolescence programmée, on parle des enjeux économiques et politiques qui sont associés à l'obsolescence programmée. Et en fait, en partant d'un geste technique, on ouvre sur des enjeux sociétaux. Et moi, ce qui me semble très intéressant, c'est que dans les Fab Labs, on puisse sortir juste d'une posture du faire, uniquement du faire tout le temps, mais qu'on puisse le connecter avec des enjeux, que les personnes puissent se réapproprier les enjeux sociétaux à travers le geste. C'est-à-dire que le Fab Lab puisse être un espace dans lequel on se réapproprie des questions sociales aussi. Qu'on fasse pas juste de l'animation du dimanche, pour le dire un peu grossièrement, avec des personnes en les occupant, qu'on fasse pas de l'occupationnel, mais que ce soit vraiment des lieux dans lesquels on ouvre sur ces enjeux-là.
Isabelle Bérébi-Hoffmann, la question ce soir du Grain à Moudre, c'était quelle société se fabrique dans les Fab Labs? Est-ce que vous avez une réponse pour conclure cette émission? Est-ce qu'il y a vraiment un modèle de société? On a évidemment répondu au cours des 45 minutes, mais s'il fallait résumer?
S'il fallait résumer, je pense que c'est une réinvention de l'autonomie à l'heure d'Internet qui se réinvente un petit peu là, mais on en est vraiment au début. C'est de ce mouvement. Ce qui est intéressant, c'est la diffusion de la culture, par contre. La diffusion de la culture, c'est-à-dire ce qui a été inventé dans les Fab Labs, enfin, dans les Makerspace, on donne un nom générique Makerspace, c'est quand même l'imprimante 3D, il y a été inventé, mais aussi des façons d'apprendre, de faire ensemble, de façon collaborative, les hackathons ont été inventés là, et on voit que tout ce vocabulaire est entièrement passé dans le monde des entreprises, dans le monde politique aujourd'hui. Donc il y a aussi une petite révolution culturelle qui est à l'œuvre et à la tête desquelles peut-être une partie des Fab Labs, pas tous parce qu'ils sont très divers, peut se retrouver.
Affaire à suivre donc. Merci beaucoup Isabelle Bérébi-Hoffmann. Je rappelle votre livre coécrit avec Marie-Christine Bureau et Michel Lallemand, Makers, enquête sur les laboratoires du changement social. C'était publié au Seuil. Merci Cécile Pellissier. Et donc je rappelle que le campus du Fab City, c'est encore jusqu'à dimanche à la Villette, au parc de la Villette à Paris. Et Antonin Fournier, merci beaucoup. Donc on peut peut-être pousser la porte de votre Fab Lab, le Simplon Lab. Rappelez-nous l'adresse à Paris dans le
24 rue Serre-Polet dans le 20e arrondissement.
Voilà, pour ceux qui seraient à Paris en ce moment ou pendant les vacances. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. C'est aussi un petit Fab Lab, finalement, cette équipe de Grain à Moudre d'été. Laila Saïdi, Camille Ferré, Céline Leclerc et Marine Lerouge. À la réalisation, c'était Vanessa Nadjar. Et à la prise de son, Élise Le.